c'est beau. Oh, mais c'est magnifique.
Ah, enfin, on y est.
Ah, JB, j'ai pris les boules, on va pouvoir jouer à la pétanque.
Eh, regarde, il y a la mer là-bas.
Impeccable.
C'est trop.
Allez, on va décharger, on décharge.
Putain, j'ai oublié le divet comme un con, bordel.
Ouais. C'est pas grave, je t'en prête un, hein. Pas de soucis.
Pince ma serviette.
C'est pas grave,
moi j'en ai une pour les cheveux, c'est bon. Ah purée, merci.
Je crois que moi j'ai oublié le shampoing.
Oh. T'inquiète, j'en ai un aussi, c'est bon.
Attends, pardon, excusez-moi. Attends.
Ah. Je vérifie quand même.
Mais moi j'ai pas ma brosse à dents, les gars.
Ouais, ah, ça c'est mort, je prête pas.
Ouais, mais quand même, enfin vous pouvez faire un effort.
Non mais une brosse à dents, ça se partage pas.
Eh oui, a priori, tout ne se partage pas. En fait, le partage, c'est une drôle de notion. C'est pas si facile. Pendant une semaine, on a réfléchi à la question.
On est un groupe d'éducateurs en formation et on est resté une semaine ensemble pour réaliser cette émission qu'on aimerait bien partager avec vous.
Parfois, on se dit qu'on va partager, être solidaire, aider parce qu'on pense que ça nous coûte rien. Et finalement, ça peut nous coûter cher. Il y a 2 ans, j'habitais à Lyon avec mon compagnon. Il y avait souvent des réfugiés en bas de mon immeuble. Je suis très sensible à la situation des réfugiés en France. J'ai été bénévole dans un centre d'hébergement des demandeurs d'asile et j'ai côtoyé des familles au parcours tragique. À chaque fois que je croisais des réfugiés assis dans le hall, je leur demandais toujours s'ils avaient besoin de quelque chose. À manger, à boire, un téléphone pour appeler. Pour moi, c'était évident, comme un automatisme. Un soir, je rentre du travail et je vois une femme et son fils dans le hall. Elle était paniquée et m'a dit qu'elle ne savait pas où aller. J'ai cherché avec elle des solutions d'hébergement. J'ai appelé des associations, le SAMU social. Aucune place. J'ai vraiment été touchée par la détresse de cette femme. Elle ne savait même pas dans quelle ville elle était. Je la sentais fragile, désespérée et complètement isolée. Avec mon compagnon, on a fait le choix de les héberger pour la nuit. Au début, on hésitait. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Et si on s'engage, pour combien de temps? On a décidé de les héberger dans notre appartement quand on était présent, et quand on allait travailler, on a descendu des matelas, des aliments, des lampes, des couvertures, dans une salle vide au sous-sol de l'immeuble. Ils pouvaient y rester la journée et recevoir la visite du SAMU social. Le soir, on passait du temps avec eux. Elle nous parlait de son pays, de ses rêves pour son fils, de son parcours migratoire. On lui parlait de nous aussi. On partageait des repas, des émotions, des souvenirs. Pendant plusieurs jours, ce partage m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai appelé le 115 environ 10 fois par jour. J'ai réexpliqué la situation, pris des rendez-vous. Je me suis fait du souci pour eux. Mon compagnon et moi, on a vécu 2 journées en une pendant quelques jours. Et c'était comme un devoir pour moi. Je me sentais engagée vis-à-vis de ces personnes. Et pour moi, c'est être citoyen que d'aider les gens en détresse. Un soir en rentrant, je trouve la femme effondrée en larmes. Elle m'explique qu'une personne est venue les chasser de la salle et qu'elle a menacé d'appeler la police. Je reçois un appel du bailleur social de l'immeuble qui me dit que nous nous exposons à des poursuites pour avoir mis à disposition cette salle qui lui appartient. J'ai ressenti une profonde injustice. J'avais vraiment l'impression que le bailleur et moi, on ne partageait pas les mêmes valeurs. J'ai été très en colère. Je connais la loi. Je sais que malheureusement des personnes sont poursuivies pour ça. Je crois savoir pourquoi cette question me touche autant. Mes grands-parents et les grands-parents de mon compagnon aussi ont immigré en France, dans des conditions et pour des raisons différentes, mais ils ont vécu les conditions d'accueil désastreuses, la stigmatisation, la misère. Alors oui, partager ça peut avoir des conséquences négatives, émotionnelles, financières, même judiciaires. Mais pour moi, c'est un choix que j'avais décidé d'assumer. Je vois bien que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire, et parfois, si c'est pas un citoyen qui intervient, de sa propre initiative, personne ne le fera. Je sais que demain, si cette situation arrivait de nouveau, je partagerai encore mon temps, mon énergie et mes ressources.
Pour moi, le partage, c'est avant tout de la solidarité. On partage son temps, son argent ou ses ressources avec les autres. Je ne pense pas qu'il faille de contrepartie. On peut juste choisir de donner sans rien attendre en retour. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être riche. Le temps, l'amour, l'attention, c'est ce qu'on donne à ses amis, à sa famille. Je pense que si je partage beaucoup aujourd'hui, ça vient de l'éducation de mes parents. Déjà, j'ai 2 petites sœurs. Donc dès l'enfance, j'ai partagé mes jouets avec elles. Je leur ai donné mes vêtements. Mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Et ma mère est tombée malade. Quand on passait la semaine chez elle, je m'occupais beaucoup de mes petites sœurs. Je leur faisais couler le bain, je faisais à manger et je repassais leurs vêtements. Quand on était chez mon père, je ne faisais pas tout ça. Mais lui, par contre, il travaillait beaucoup. Avec mes sœurs, on avait plus de temps pour jouer ensemble. C'était un peu nous trois contre le reste du monde. Particulièrement contre les copines de mon père. Moi, je veux bien partager beaucoup de choses, mais pas mon dad. Plus tard, quand je suis allée à la fac, j'ai continué à préférer le collectif. J'ai fréquenté les assos étudiantes et j'ai fini par devenir présidente de mon BDE. J'y passais plus de temps qu'en amphi, à organiser des soirées, des voyages au ski, à monter des projets solidaires comme le Téléthon, le SIDAction. Au final, j'ai validé ma maîtrise sans mention, mais je suis repartie de la fac avec plein de souvenirs, plein d'amis, plein de contacts et des ressources organisationnelles qui me sont bien utiles pour mon métier d'aujourd'hui. Je suis aussi formatrice BAFA dans une association d'éducation populaire. L'écolo, pour moi, c'est du partage solidaire. Finalement, après vous avoir dit tout ça, je me rends compte que je dois quand même nuancer mon idée de départ, comme quoi on pourrait partager sans contrepartie. Même si je n'attends pas forcément de récompense, ou même de gratitude lorsque je donne mon temps ou mon argent, c'est vrai qu'un petit sourire, une accolade, ou juste un simple merci, ça m'apporte de la joie et du réconfort. Je me dis que par mon action, j'ai peut-être aidé quelqu'un, que je lui ai rendu peut-être la vie plus facile. En vrai, c'est conforme à mes valeurs, à ce que je suis.
On a écouté une émission radio réalisée par des jeunes scolarisés en 5e SECPA à Montpellier et qui portait sur le thème de la mixité dans le sport. Parmi tous les gens qu'ils ont rencontrés, c'est ce que dit Jennifer qui m'a interpellée. Jennifer, c'est leur prof de rugby et elle est même joueuse internationale.
Allez, rouge !
Allez !
Appliquez-vous sur les pattes ! Regarde, Rally, dépêche-toi, t'es trop tard, Rally.
Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter?
Donc, je m'appelle Jennifer, j'ai 27 ans et je suis éducatrice sportive au club de Montpellier au rugby.
Pourquoi avez-vous choisi ce sport?
Je suis venue au rugby grâce à, avec mon frère. J'ai un frère jumeau et à l'âge de 7 ans, on a joué ensemble au rugby et j'ai continué depuis jusqu'à maintenant.
C'est rare une femme qui joue au rugby. Comment réagissent les gens quand vous parlez de votre métier?
Au début, ils sont un peu étonnés parce qu'ils ne connaissent pas du tout le rugby féminin. Et après, ils se disent, après, ils voient vraiment qu'on est des personnes, des vraies filles. Donc, du coup, ils s'adaptent à la personne. Mais du premier coup d'œil, ils sont un peu étonnés.
Vous avez entendu ça? C'est quoi une vraie fille? Il n'y a pas de fausse fille et de vraie fille. On est une fille, point barre. Bon. Je dis ça aujourd'hui, mais je sais que j'ai évolué sur cette question. Même si j'étais dans une famille ouverte d'esprit, à l'âge de 12 ans, j'aurais sûrement trouvé étrange qu'un garçon rejoigne mon cours de danse classique. Est-ce que j'aurais dit à l'époque que ce n'était pas un vrai garçon? Pas par méchanceté, mais plutôt par bêtise? Peut-être. Mais depuis, j'ai rencontré plein de personnes différentes et avec qui j'ai partagé plein d'expériences. Mon avis sur la question a donc changé. Pourtant, je me surprends parfois à être encore prise dans des stéréotypes sans même le vouloir. Par exemple, j'ai suivi à fond la Coupe du Monde 2018. Je me souviens, à la finale, c'était une explosion de joie dans les rues. On dansait, on criait et on se tombait même dans les bras avec des inconnus. Par contre, à aucun moment je ne me suis intéressée après à la Coupe du Monde de football féminin. Pourquoi? Bah, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un risque à retomber facilement dans ces stéréotypes. Et les jeunes aussi peuvent être pris dans des clichés. C'est donc important pour moi, en tant que future éducatrice, de ne pas les lâcher là-dessus. Par exemple, en foyer, lorsque des blagues sexistes fusent à table, je ne peux pas m'empêcher de creuser le fond du sujet pour voir si c'est juste une petite blague ou s'ils ont vraiment cette image-là de la femme qui serait inférieure. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de taf encore là-dessus avec les jeunes.
La mixité et le sport. Ouais. Le sport, ça fédère, paraît-il. Pourtant, plus j'écoutais cette émission, plus je me suis rendu compte que s'il y a besoin de fédérer, c'est parce qu'on est divisé. C'est parce qu'il y a des inégalités sociales encore trop présentes. Le sport est même parfois le reflet et même le moteur de ces inégalités. Le sport rassemble. Soit. Alors il faut m'expliquer pourquoi une fille qui fait du rugby se sent obligée de justifier qu'elle est une vraie fille. Pourquoi des jeunes issus de quartiers populaires qui essayent de jouer au golf se font poursuivre par un vigile? Pourquoi une fille qui vit dans un quartier aisé n'ose pas parler de ses moyens financiers à ses copines de basket? On va pas se mentir, certains sports sont réservés à certaines catégories sociales. En 12 ans de danse classique, j'ai jamais vu de garçon. En 5 ans d'équitation, j'ai jamais vu personne qui venait de la paillade. Alors oui, nous étions en groupe. Nous avons partagé des moments ensemble. Mais en aucun cas, ils ne m'ont permis de côtoyer des personnes différentes de mon cercle habituel. On dit souvent que dans le sport, c'est le niveau qui compte, pas la classe sociale, le genre ou l'origine culturelle. Certes, mais quand on n'a pas ce niveau, ou juste pas l'envie, le sport ne peut-il pas être une source d'exclusion? Je pense que si.
T'es prêt?
Oui.
C'est moi qui t'y joue. Chou,
fleur,
chou,
fleur,
chou,
fleur,
chou,
fleur,
chou,
fleur,
chou. Ah, c'est moi qui ai gagné.
Bah vas-y, choisis ton équipe.
Prenons l'exemple du collège. Le sport est imposé. Je me rappelle qu'on faisait souvent des sports collectifs qui nécessitaient la constitution d'une équipe. C'était toujours les mêmes qui étaient choisis en premier. Celui qui faisait du foot en dehors de l'école, le garçon bien musclé qui avait l'air fort. Mais, et pour les autres? Petite fille un peu boulotte et maladroite, je n'étais visiblement pas un choix très stratégique pour un esprit compétiteur. Alors j'attendais. Les noms défilaient. J'attendais. Plus le temps passait, plus j'avais mal au ventre. Plus je me sentais seule. J'attendais jusqu'à ce qu'il ne reste que moi. Donc oui, je l'affirme, le sport ça peut aussi exclure. Le pire en fait, c'est que j'aime ça le sport. Je crois juste que j'ai pas trouvé le bon endroit. Alors je vais continuer à chercher. Parce qu'au final, tant qu'on fait ce qu'on aime, le jugement des autres, c'est pas si important, si.
Moi, je suis pas un garçon manqué et pourtant je joue au foot. Une fois, je suis même devenue capitaine de mon équipe. Ça n'a pas été facile. Je vais vous raconter. En fait, au foot, c'est les garçons qui décident. Souvent, c'est parce que c'est eux qui apportent le ballon. Mais même quand c'est moi qui amène le ballon, c'est eux qui décident. Sinon, ils me disent...
T'as qu'à jouer toute seule avec ton ballon.
Mais y'a rien à faire toute seule. Donc, on est obligé de suivre leurs règles. Quand ils sont capitaines, les garçons, ils prennent toujours les meilleurs, dans le seul but de gagner. Moi, pour choisir, c'est le contraire. Je prends d'abord les plus gentils, et après, si c'est possible, les plus forts. Mais je prends pas non plus toutes les filles, rassurez-vous. Parce que sinon, on risque vraiment de perdre. Bref, c'était important pour moi d'être capitaine. Pour choisir mon équipe. Et quand j'ai voulu l'être, les garçons m'ont dit non. Alors je leur ai dit « Ok, c'est bon, d'accord », et j'ai boudé. Du coup, ils ont dit oui. Et à la fin du match, mon équipe a gagné. Les garçons m'ont dit
« Franchement, pour une fille, tu joues bien. »
Ça fait plaisir d'entendre ça.
Eh bien moi, c'est le témoignage de cette jeune fille qui m'a parlé. Cette scène me fait penser à un souvenir personnel. À l'âge de 10-11 ans, j'avais un groupe d'amis exclusivement composé de garçons. J'étais donc la seule fille. Et comme la petite qu'on vient d'entendre, il était difficile pour moi de me faire accepter lorsqu'il jouait à des sports dits « masculins ». Par exemple, lorsqu'il jouait au football, j'avais toujours pour mission d'aller chercher les balles. Lorsque j'avais enfin la chance d'intégrer leur équipe, je les faisais perdre. Suite à ça, ils voulaient plus me prendre dans leur équipe et m'acceptaient que difficilement en tant que gardienne de but. J'avais le sentiment d'être exclue à cause de mon genre et je ne savais pas comment changer les choses. Quelques années plus tard, je suis allée au karting avec un groupe composé de 3 garçons et 4 filles. Je voyais les garçons me doubler et j'essayais au maximum de les dépasser, comme si j'avais quelque chose à me prouver. Finalement, je me suis retrouvée 4e, derrière les garçons, mais devant les filles. J'éprouvais une certaine fierté à être plus forte que les filles, comme si j'avais de meilleures capacités qu'elles à maîtriser une activité masculine. Et puis, j'éprouvais une certaine frustration, car je n'arrivais pas encore une fois à m'intégrer pleinement dans un groupe de garçons. Sur le chemin du retour, un ami m'a dit « Tu gères toi en fait, t'es pas une grosse fragile ?» Ma frustration a disparu aussitôt, car j'avais un sentiment de reconnaissance. Je me suis longtemps posé cette question. Pourquoi voulais-je absolument me montrer égale ou supérieure aux garçons? J'avais le sentiment que montrer mes capacités était la seule manière de m'intégrer dans un groupe de mecs. Mais ce système de fonctionnement voudrait dire que nous acceptons le fait qu'il serait supérieur aux femmes sur certains domaines. Cela voudrait dire également que certaines activités sont masculines et d'autres féminines. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, ma vision des choses a changé. Je pense que les hommes et les femmes sont égaux et qu'ils n'ont rien à se prouver. Il y a quelques années, je travaillais pendant que mon conjoint était à la maison. Il faisait la cuisine et s'occupait des tâches ménagères. Aujourd'hui, nous travaillons tous les deux et nous essayons de répartir les tâches équitablement, même s'il lui arrive toujours de cuisiner plus que moi car je n'aime pas ça. Cette émission, réalisée par des collégiens, nous a amenés à réfléchir sur la question de la mixité dans le sport. Notre façon de penser a changé et a évolué au cours du temps. J'imagine que ça a dû faire la même chose pour les jeunes qui l'ont réalisé.
Moi, j'ai grandi dans une ferme, dans le Gers. C'est mon père qui a repris l'exploitation de mon grand-père. Alors, on pourrait se dire, milieu rural, agricole, ça sent le tableau classique. Le père qui bosse et la mère qui s'occupe des enfants et se coltine de toutes les tâches ménagères. Si c'était valable pour mes parents sont sortis de ça. Tout petit, ma mère nous faisait faire le ménage dans nos chambres et la maison, pour nous apprendre à le faire et qu'on puisse prendre notre part. Il n'y avait pas d'assignation de tâches si on était un garçon ou une fille. Ils ne se sont pas posé la question. Ma mère est factrice. Elle part tous les jours à 6h du matin. Alors c'est mon père qui nous levait pour aller à l'école, nous préparait notre petit bol de chocolat chaud. Il regardait notre cartable, nos habits, un coup de peigne et nous amenait au bus. Chacun s'adaptait à la situation. Mon père, avec son boulot d'agriculteur, les champs à préparer et les vaches à s'occuper, avait des horaires tardifs. Et ma mère rentrait en début d'après-midi et donc se complétait parfaitement dans le partage des tâches. C'est toujours mon père qui s'occupait de l'apéritif et ma mère du repas. Mais c'était pas une histoire de sexe hein, ou autre en mode les femmes à la cuisine et les hommes à la bière. En fait, c'est juste que mon père est une quiche en cuisine, mais s'y connaît en vain et ma mère est super douée derrière les fourneaux. La cuisine, mais surtout l'institution du repas, se retrouver, partager de la convivialité, des discussions et souvent de la bonne humeur. Pour mes grands-parents, c'était différent. Ils ont évolué dans une époque où c'est le bon père de famille qui ramène l'argent à la maison. Et la femme, elle s'occupe de tout ce qui est entretien de la maison, évidemment des gamins. Au fil des années, les mentalités et les comportements ont changé, même si j'ai observé que ça n'a pas encore bougé chez certains amis. Je vous parlais de mes grands-parents. Eh bien, j'ai vu ma grand-mère tout foutre en l'air à force de voir mon grand-père rien faire. Elle voulait du temps pour jouer à la belote avec ses amis. Mon grand-père ne s'y attendait pas. Il a fallu qu'il s'adapte. Avec des discussions et de la communication, ils ont su partager leur temps et trouver un autre équilibre. Je peux dire que ça m'a profondément appris. J'aurais jamais imaginé ça possible. Ça me laisse encore de la marge et ça donne des perspectives, je trouve.
On pourrait croire que c'est un village d'une ancienne époque parce qu'il y a plein de petits magasins, mais il n'y a pas de vie. On est les seuls à avancer, donc comme si c'était un village suspendu hors du temps. Nous sommes donc en Aveyron, à Sauveterre de Rouergue, et on va partir à la rencontre d'un couple de personnes qui exercent le métier de luthier pour en savoir plus sur leur métier. Et on vient d'entrer dans un petit village très joli, médiéval, mais il y a beaucoup de vent et il fait un peu froid.
Bonjour.
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 Pedro.
On est au cœur de l'atelier. Alors.
Donc là, c'est l'atelier de fabrication et de réparation de lutherie. Et à côté, c'est un peu plus pour accueillir le public, faire essayer les instruments.
On a appris donc, que vous étiez luthier. C'est une profession qui est peu connue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre métier et en quoi il consiste exactement ?
Alors ça dépend. La lutherie, ça peut être de la réparation et fabrication d'instruments à archer ou à cordes pincées. Donc nous, on s'occupe surtout des instruments du quatuor, donc quatuor c'est violon, alto, violoncelle.
Aujourd'hui aussi, on a un peu fracturé la définition et on peut appliquer le mot luthier effectivement à tous les corps de personnes qui travaillent dans le domaine de l'instrumental, à l'exception des orgues, là on dit encore un facteur d'orgue. Après pour tout le reste, on dit un luthier accordéon, un luthier...
Oui. Bon, on n'est pas d'accord, ça commence bien.
Oui.
Vous travaillez ensemble, vous êtes aussi ensemble dans la vie. Est-ce que c'est vraiment la passion qui vous a rassemblé ou est-ce que c'est le fait de travailler dans cet univers tous les deux qui vous a fait vous rencontrer ?
On s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Et on a fait 4 ans d'école en Italie.
D'accord.
Oui. On était amis, on se disait on sortira jamais avec un collègue. Non, pas du tout. Et puis finalement, si. Voilà.
Et moi, surtout, je ne voulais pas travailler avec quelqu'un avec qui j'habite. Mes parents m'ont toujours dit, ça, c'est la bonne recette pour le désastre. Mais bon, après, comme tout dans la vie, il y a des compromis à faire. Voilà, quoi. Et surtout, si on s'entend bien.
Et alors, justement, comment vous vivez le fait d'être toujours ensemble, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre de la maison, puisque c'est quelque chose apparemment que vous n'aviez pas prévu à l'origine. Donc, comment ça se déroule maintenant au quotidien pour vous?
Maintenant, ça a un peu changé. Au départ, on a passé peut-être 4 ans à bosser tous les deux ensemble. Et au bout de 4 ans, c'était quand même un peu long. Après, on a des formations, même si on a fait la même formation, la même école, on a après travaillé chez des luthiers très différents. Donc on a des compétences un peu différentes qui finalement s'assemblent bien, même si on n'est pas toujours d'accord. Et bon, du coup, ça marche bien. Même on a fait, en fait, les violons, on fait chacun fait son violon. Et les altos et les violoncelles, on les fait à 4 mains. Ça fonctionne, quoi. Mais là, depuis 4, peut-être, ouais, un peu moins de 4 ans, on fait aussi d'autres activités.
Du coup, je voudrais revenir sur votre vie de couple. Comment vous vous organisez réellement, du coup, en tant que mari et femme, luthier, et toutes les activités que vous avez à côté?
De temps en temps, voilà, il y a un qui vient au matin à l'atelier, pendant que l'autre, hein, il reste voilà, à faire à la maison, ou va dans des bibliothèques ou des choses comme ça. Et après, on inverse.
Et alors, justement, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez mis en place de nouvelles activités pour avoir aussi des temps à vous séparer. Et nous, on avait cru comprendre que vous, Aglaé, vous travaillez aussi dans le bâtiment. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet?
Je crois que ça fait 3 ans, peut-être. J'ai fait une formation à Albi. Et c'est tout ce qui est finition dans le bâtiment. Donc, les enduits traditionnels à la chaux, au plâtre et à la terre. J'ai fait ça parce qu'en fait, j'étais quand même sur les chantiers avant ça, parce que mon père est maçon, donc j'ai toujours accompagné depuis jeune. Et donc là, j'arrive à faire, je sais pas, à peu près moitié du temps sur les chantiers, moitié du temps à l'atelier.
Et je voulais savoir si vous travaillez dans le bâtiment pour subvenir à vos besoins de la maison ou par passion. Et du coup, est-ce que vous arrivez à vivre du métier de luthier?
Moi, je l'ai fait par passion, parce que j'aime vraiment être sur les chantiers. Donc j'avais vraiment envie d'avoir une formation et de travailler là-dedans. Après, en lutherie, il y a du travail, mais pas forcément toujours pour deux, quoi. Si on était un, je pense que ça irait très bien, mais malheureusement, on est deux. Donc, c'est vrai que ça aide aussi de faire des chantiers au niveau financier, c'est sûr, ça aide.
Je voulais juste revenir sur un peu, parce qu'il peut y avoir des représentations, etc. Et être une femme dans le bâtiment, comment est-ce que vous, personnellement, vous le vivez et comment ça s'est fait, si c'était naturel?
Il y en a beaucoup, en fait, on ne se rend pas compte, mais il y en a de plus en plus, des femmes dans le bâtiment. Sur les chantiers, après, j'ai la chance de bosser. En général, on est un groupe de filles, donc on est 4, 5, ou bon, ça dépend, entre 2 et 5, quoi. La plupart du temps, que des filles, donc déjà, on arrive en force. On est confronté à d'autres corps de métier et d'autres groupes, souvent de garçons, qui sont assez étonnés les premiers jours, très mal à l'aise. Et nous, du coup, pas du tout. Et ça se passe très bien. Et au bout de 2-3 jours, ils se rendent compte que oui, une femme est capable de faire beaucoup, de porter beaucoup et de se débrouiller sans avoir besoin d'aide. Parce que par contre, au début, ils sont là pour porter les sacs ou je t'aide, je vais t'aider, je vais faire ça pour toi. Et puis, ils se fatiguent assez vite en général. Donc ça se passe bien.
Moi, j'ai retenu que vous avez fait du violon pendant 5 ans, c'est ça, 5-6 ans? Et je voulais savoir si c'était possible que vous jouiez du violon.
Je pense que Pedro vous jouera avec plaisir un morceau de violoncelle.
Moi, je peux jouer du violoncelle.
mais pas moi.
Ça, je peux vous faire.
Je crois au partage, mais par contre je ne suis pas dupe. Je pense que l'on partage uniquement par intérêt personnel. Quelqu'un qui dirait qu'il donne sans attendre un retour est bercé d'illusions. Étant fils unique, quand j'étais petit, je ne partageais pas mes jouets. Je n'en avais pas besoin puisque j'étais seul. Mais à l'école, tout était différent. Car au final, si je ne partageais pas, Je jouais, certes, mais avec qui et quel intérêt j'en avais? Je m'aperçus alors très vite que je trouvais une contrepartie à partager mes jouets, celle de ne plus être seul. Beaucoup de nos bonheurs viennent des autres, et vu que je vise mon propre bonheur, alors partager avec les autres devient mon intérêt personnel. Certains disent qu'il faut continuer de donner sans attendre de retour, mais tu penses vraiment que donner sans retour te satisfait? Moi, je pense surtout que tu es content de donner, et que tu cherches à être conforme à tes valeurs, à ta religion. Mais le partage n'est pas que matériel. On peut aussi utiliser ce terme dans le sens d'avoir ou faire quelque chose avec quelqu'un. On participe alors à une réalité commune, comme le partage de sentiments, de valeurs, de pensées. Mais là encore, il y a un intérêt personnel caché. L'amour, c'est bien, mais à deux, c'est mieux. Cette phrase est vraiment vraie. Mais on n'obtient pas toujours la contrepartie qu'on espérait. On a tous connu ces histoires d'amour à sens unique. Cependant, selon moi, le fait de partager ses sentiments induit l'attente d'un retour positif. Je pense que pour être le partageur numéro 1, le plus doué des partageurs, il faut trouver le juste équilibre entre l'intérêt pour soi et l'intérêt pour les autres, mais aussi entre nos obligations et notre liberté.
S'il y a bien quelque chose que je ne pourrai jamais partager, c'est ma brosse à dents.
Poppy, mon lapin.
Mon avis.
Mon mec.
La dernière rondelle de saucisson.
Mon mouchoir usagé.
Le carpaccio de bœuf aussi.
La musique qui est dans ma tête.
Longtemps, j'ai été persuadée que partager, c'était choisir ce que je voulais donner ou faire avec les autres. En fait, c'était ma conception du vivre ensemble. Je pense que c'était une manière de me protéger, sûrement par peur de vivre des émotions négatives ou de me sentir en danger. Maintenant, je pense qu'il y a des situations où on ne peut pas être dans la maîtrise de ce qu'on partage. Ça nous dépasse. Par exemple, l'année dernière, lors d'un atelier d'écriture en formation, on devait écrire à quelqu'un pour lui dire où on en était dans notre vie. Moi, j'ai choisi d'écrire à ma grand-mère parce que c'était quelqu'un de très important pour moi. Elle est décédée avant que je passe le concours de la PJJ. Je l'écris parce que je n'avais pas eu le temps de lui dire tout ce que j'avais à lui dire. Je me suis lancée, j'ai lu mon texte. Et à ce moment, en pleine lecture, le regard des autres, cette proximité, m'a fait craquer. Et j'ai pleuré. J'ai partagé ça avec des personnes que je connaissais peu à l'époque. Mais quelque part, je me suis sentie apaisée d'avoir mis des mots et d'avoir laissé sortir ce que j'avais gardé pour moi jusqu'à présent. Alors, on ne maîtrise pas tout dans ce qu'on partage, et je pense que c'est une bonne chose. Je pense aussi qu'on partage en fonction de qui on est, notre passé, notre vécu de certaines situations, notre éducation ou nos valeurs. Moi, je suis issue d'une famille nombreuse. On est des triplés, et je pense que ça a participé à la construction de ma vision du partage. Toute mon enfance, on a dû partager tout entre nous trois. L'attention de nos parents, les repas, les copains, et en quelque sorte, ça m'était imposé. Je sais qu'aujourd'hui, si par exemple je refuse de partager certains moments avec des personnes, c'est parce que j'ai pas envie à ce moment-là, mais non pas parce que je ne m'intéresse pas à la personne. Je me force pas, et je sais que c'est peut-être dû à mon enfance. C'est un peu comme dans le travail éducatif avec les jeunes dont on s'occupe. Pour moi, la relation doit se baser avant tout sur le partage de soi. Et si je m'autorise à me dévoiler, à être authentique, peut-être qu'un jour, ils vont comprendre qui je suis, apprendre à me connaître et s'autoriser à entrer en relation de confiance. Je n'attends pas en retour qu'ils se dévoilent dans l'instant, mais petit à petit, et qu'ils acceptent de travailler avec moi.
Moi, je trouve qu'on devrait tous partager le bonheur.
Ces idées !
Des miettes !
Une volonté de partager !
Une connexion Wi-Fi, surtout dans l'Aveyron !
Nos expériences, ses capacités,
nos richesses si on en a,
notre temps et pas le magazine.
Mais je trouve qu'on devrait tous partager une part de bière,
surtout notre goûter.
Moi je trouve qu'on devrait tous partager notre planète.
J'aime bien l'idée qu'on choisit ou non de partager. Même au niveau familial, je crois que là encore, on peut choisir. J'ai grandi dans une famille décomposée, recomposée, re-redécomposée. Je vous laisse imaginer le casse-tête pour Noël. Résultat, j'ai deux sœurs aînées de 16 et 17 ans de plus que moi du côté de mon père. Et une petite sœur de bientôt 17 ans du côté de ma mère. Je connais peu de la famille de mon père qui habite dans le Nord. Ça s'entend pas comme ça, mais je suis à moitié ch'ti. Mes parents se sont séparés quand j'étais enfant. Mon père s'est peu à peu éloigné géographiquement. Finalement, mon père me connaît sans me connaître. Par contre, je suis proche de ma famille maternelle. Ma mère vit aujourd'hui seulement avec ma petite sœur en pleine crise d'ado identitaire. Et à avoir l'aîné qui devient éduque, ça aide. Parentalisée assez tôt, j'ai plus voulu partager quoi que ce soit avec ma mère. J'ai choisi de partir, d'aller dans une autre région, de m'éloigner physiquement pour prendre du recul et vivre enfin pour moi. Ma grand-mère est super importante à mes yeux. Mon grand-père, il était tout autant. Lorsqu'il est mort il y a 2 ans, le temps et certains événements de la vie m'ont conduit à me rapprocher de ma mère. Peu à peu, j'ai effacé la rancœur. Notre relation s'est apaisée. En étant plus assurée, j'ai pu choisir de partager cette nouvelle relation avec elle. Et devenir éducatrice me permet aussi d'adopter une place différente. Mon grand-père, lui, m'a toujours dit qu'on passe notre vie à apprendre, qu'on a de cesse de s'enrichir humainement. Il m'a partagé les épisodes de sa vie, les leçons qu'il en a tirées, pour me transmettre, à sa manière, l'importance de l'humilité. Il m'a aussi donné envie de toujours apprendre, de découvrir, d'ouvrir son esprit, en se formant à travers la lecture et les voyages. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour sa finesse d'esprit. Les valeurs qu'il m'a transmises ont une grande place dans mon univers personnel et ont eu un impact sur mes choix professionnels. Aujourd'hui, je trouve de la légitimité à être éducatrice à travers mon vécu. Je pense qu'on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on peut choisir ce que l'on en fait. Mon histoire me permet de comprendre celle des jeunes. Et si tout ceci peut m'aider à les accompagner vers leurs choix, leur apprendre à faire de certains événements une force pour avancer librement, j'aurai partagé une belle aventure.
Alors là, on arrive à Rebintin, à 6 km de Sauveterre de Rouergue, et on vient rencontrer Nicolas Rudel.
Alors là, on Bonjour. Arrive devant une serre. Et il y a une estafette bleue et il y a un monsieur tout souriant qui nous attend, donc je pense qu'on est au bon endroit.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Rentrez. on va se présenter, on est éducateur en formation, on travaille avec les jeunes et tout ça, et là on est en formation radio sur Sauveterre. Et donc on a trouvé super intéressant de venir vous raconter parce qu'on est sur le thème du partage. Donc c'était pour discuter avec vous et voir comment ça fonctionne. Parce que personnellement, je viens du Gers, donc j'étais fils d'agriculteur et tout ça. Et je ne connaissais pas paysan boulanger. Donc qu'est-ce que vous pouvez m'en dire en fait de ce métier ?
Eh bien, avant de commencer, du coup, vous dire que je vais devoir m'occuper du four. Et moi, ça ne prend pas longtemps. À chaque fois, j'en ai pour 1 minute ou 2. Du coup, je fais juste mon petit truc et après, je reviens vers vous. Voilà. Du coup, là, je vais m'occuper du four et je reviens vers vous.
Merci. Travail.
Et ouais, là vous pouvez rester juste dans ce coin, comme ça vous risquez rien.
Alors là, on est devant le four et il y a plein de braises, on sent la chaleur et là il est en train de ramener les braises chaudes vers l'entrée du four. En fait, vous préparez
Du coup, ça fait 2h30 là qu'il y a du feu. Et là, il me reste les braises et du coup, je fais en sorte d'uniformiser la chaleur dans le four. Et du coup, c'est une chauffe à l'ancienne, quoi. Il y a pas de... La chauffe est directement sur la sole et le pain va cuire sur la sole quand j'aurai nettoyé.
C'est quoi le bruit qu'on entend derrière ?
Ah, c'est le moulin. On peut l'arrêter si c'est gênant. Et après, pourquoi paysan boulanger ? Pour revenir à la première question. Déjà parce que j'ai toujours aimé faire du pain. Voilà, ça c'est la première raison. Et mon père avait une petite ferme en conventionnel, c'est-à-dire avec des vaches, des cochons, de l'intensif, du riz gras, du Roundup, tout ça. Et il y a 12-13 ans, je suis revenu à la ferme et on a commencé à changer, à travailler sur des semences paysannes, à voir les choses un peu autrement, quoi. Et moi, je suis parti voir ailleurs comment on travaillait et je suis revenu... en me disant que j'allais faire du pain, j'en avais jamais fait avant, j'ai pas de formation, mais je savais que j'allais faire du pain, voilà, et avec mes céréales.
Oui, vous aviez dit que vous êtes allé voir ailleurs pour vous former, vous êtes allé voir d'autres boulangers
Non, je suis allé voir d'autres paysans, notamment une ferme autogérée dans la Roya, et du coup, quand je suis revenu, en fait, j'avais cette expérience en plus et cette...
Juste par rapport au blé, au seigle et tout ça, est-ce que c'est vous qui préparez les champs, qui faites tout ce qu'il y a à faire comme travail, ou est-ce que c'est en commun après
C'est moi qui prépare tout, c'est pas toujours facile avec ces semences, donc j'essaie en fonction des diverses variétés de les tester en pur pour après voir qu'est-ce que je ressème dans mes champs. Et je travaille avec d'autres paysans, je fais voyager mes semences un peu, donc du coup je travaille aussi avec des paysans, un paysan dans le Tarn, un paysan à Nocelle juste à côté, et avec des voisins qui sont en bio, il y a 2 voisins en bio ici. Et avec eux, on travaille beaucoup ensemble, on a du matériel en commun. Et on s'échange du temps de travail, on s'échange Enfin, j'en prends du matériel quand j'en ai besoin.
Du coup, qu'est-ce que ça vous apporte encore maintenant en termes de valeur, de partage? Parce que vous avez l'air du coup de dire que vous échangez avec vos voisins. Donc...
En fait, je pense que ce qui facilite le partage, c'est que j'ai aucune aide de personne. Enfin, au niveau de l'Europe, des banques, de tout ça, j'ai pas fait d'emprunt, d'investissement, rien. Enfin si, j'investis, mais j'ai pas fait d'emprunt. Et donc du coup, ben, on se retrouve dans une situation où on a besoin de tout le monde, des compétences de tout le monde. Les voisins ont été très importants au départ parce qu'ils sont déjà installés, ils avaient du matériel et ils ont pu me le prêter. Après, le four à pain, par exemple, j'ai pas hésité à le faire parce que je savais qu'il allait retrouver une fonction sociale, en fait. Et là, tout doucement, c'est ce qui est en train de se passer. Y a des comités des fêtes qui me demandent de faire cuire des soupes au fromage. Vendredi soir, quand j'ai eu fini le pain, il y a des copains qui m'ont appelé. Ils m'ont dit « Ouais, on veut faire cuire un truc au four, on ramène des bières. » Bon, ben allez, c'est parti. Donc c'est le fait aussi, c'est un choix, quoi, de se dire que j'allais compter aussi sur les autres, mais sur les gens, quoi, enfin sur les vrais gens, quoi. Et ça marche bien, quoi. On recrée du lien, on essaie de faire un peu autrement, quoi. Du coup, tac, on va aller au moulin. Je me ferai un passage.
Elle est là, le moulin. Vitesse secrète.
Ça fait du bien quand ça s'arrête.
On est resté presque 2 heures avec lui. On a continué à discuter et lui, il enfournait son pain. C'était vraiment une parenthèse, un moment suspendu dans notre journée. On s'est laissé emporter par son travail et sa simplicité. On a pris le temps. Le temps d'échanger, le temps de le regarder travailler. On s'est imprégné du moment et des odeurs. Et avant de partir, on a partagé les saveurs de son pain, tout juste sorti du four.
Ça a l'air
merci.
Trop bon.
Alors le meilleur moment pour déguster le pain au levain, c'est quand même 2-3 heures après. Quand il ouais non mais c'est il lui faut le temps en fait de resuer.
Voilà. Trop bon.
Non
c'est trop quand même moelleux, trop. Ah, c'est bon.
On pourrait penser que c'est bien de partager ce qu'on aime avec les gens qu'on aime. Mais moi, ce que j'aime, c'est partager avec ceux que je ne connais pas. Ça permet de vivre des choses inattendues. Depuis toujours, plus les gens sont différents de moi, plus j'ai envie d'aller vers eux. Je sais pas trop pourquoi. Je crois que des fois, quand on ne trouve pas auprès des siens suffisamment d'étayage, on va chercher des ailleurs. Plus les gens paraissent cabossés, plus ils m'intéressent. Je me suis toujours sentie à part. C'est peut-être pour ça que je vais vers la différence. J'aime bien les gens qui rentrent pas dans des cases. En fait, quand on partage avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a moins d'attentes, moins de risques d'être déçu. On s'engage à pas grand-chose, mais ça peut rapporter beaucoup. Ça libère du poids qu'on porte, des conventions sociales, familiales, de son histoire. Ça peut permettre de la réécrire. En somme, c'est que du bonus. Et puis partager ce qu'on ne connaît pas permet aussi de vivre des choses inattendues, de se surprendre soi-même, de découvrir des ressources insoupçonnées. Dans le cadre de mon travail d'éducatrice, j'ai inscrit des jeunes à un tournoi de pétanque, activité improbable pour des jeunes et pour moi aussi. Et ce n'est pas tout. Le tournoi se déroulait en mixité intergénérationnelle et en dit valide. Oui, j'aime les défis. Volontairement, j'ai pas préparé les jeunes au public que nous allions rencontrer. J'ai juste motivé les troupes pour aller vers la rencontre et la découverte. Bon, au départ, c'était pas très chaud. Nous étions répartis en équipe mixte. Un vieux, un jeune, une personne en situation de handicap, des femmes, des hommes, et tout le monde a participé à son niveau. Je garde cette journée un beau souvenir de partage, d'échange et de challenge. C'est un tournoi quand même. Les jeunes ont été confrontés à la différence sous toutes ses formes. Déjà par l'activité, autant qu'avec les rencontres qu'elle a suscitées.
Je crois qu'ils ont pris conscience qu'on est tous l'étranger de quelqu'un d'autre. J'ai même vu des jeunes aider de façon spontanée des personnes en situation de handicap, allant jusqu'à leur essuyer le coin des lèvres après le repas. J'avais des doutes, mais à la fin de cette belle journée, je me suis dit que ça avait du sens d'amener les jeunes à se confronter à l'inconnu, comme je le fais dans ma vie perso.
Depuis petite, j'ai toujours été sensible aux vulnérabilités des personnes que je pouvais rencontrer. Ma mère me disait « Si je te perds dans la rue, tu seras sûrement assise à côté du premier SDF pour lui parler. » Je crois que l'injustice et les inégalités me rendaient vraiment triste. J'ai du mal à savoir d'où ça vient. Ma mère m'a toujours dit « Quand tu rencontres quelqu'un, parie sur la bonté de la personne. » C'est sur cette idée que je me suis construite. Je pense qu'elle m'a réellement transmis l'envie d'être tournée vers les autres. À 14 ans, je voulais être juge des enfants. Pourtant, à 24, 3 mois avant le concours de la magistrature, après 5 années de droit, j'ai pris une autre direction. Je me sentais ni à ma place, ni en capacité d'exercer cette fonction. J'avais besoin de plus de temps. Quelques années après, je me souviens d'une personne dans le train, très fortement alcoolisée, assise en face de moi, qui s'est mise à me parler. Il était à la rue, avait conscience de ses addictions, ne pouvait plus voir sa fille de 4 ans. Je l'ai seulement écouté. Puis, il s'est levé, m'a dit « On ne va jamais se revoir, mais merci » et est descendu du train. Je me suis rendu compte que les émotions que son histoire avait suscitées chez moi n'étaient pas envahissantes. Son histoire me touchait. J'étais triste pour lui, mais pas triste moi. J'ai donc à nouveau réfléchi à mon envie de travailler avec ces jeunes. J'avais grandi. Je me suis mise à penser à devenir éducatrice. Mes prises de recul n'ont par contre pas enlevé ma sensibilité. Au début de ma formation d'éducatrice, des professionnels m'ont parlé de bonne distance et m'ont mis en garde sur l'épuisement professionnel, certainement à cause de mon investissement. Je vois bien que certains éducateurs arrivent à ne rien montrer de ce qu'ils peuvent ressentir. D'autres sont sensibles au parcours des jeunes. J'en ai même vu certains être émus à en pleurer après leurs entretiens. Je me suis rendu compte que le concept de bonne distance est au final très théorique. Nous traînons nos valises. Des situations éducatives peuvent y faire écho. Il me paraît impossible de ne jamais rien ressentir comme si nous étions des robots. À ce moment-là, je pensais encore qu'il fallait cacher ses émotions. Il faudrait que je tisse des liens sans affect ni émotion, tout en étant authentique. La question serait donc à quelle place mettre nos émotions plutôt que comment les mettre de côté. Finalement, toute la problématique de la bonne place de l'éducateur est là. Il est normal de ressentir des choses, d'être touché. Je commence tout juste à cerner la place des émotions et de mon propre vécu dans mon travail d'éducatrice. Je vais essayer de les mobiliser au bon moment.
Bon, alors, t'as réfléchi? Tu fais quoi? Tu pars? Tu restes? On fait comment?
Je sais pas, j'hésite. D'un côté, j'aime trop ici, c'est beau, on est bien. Et en même temps, je suis partagée.
Bon, allez, c'est bon. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Tu montes dans la voiture et on y va.
Et oui, on arrive à la fin de cette émission. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous.
On a vraiment fait des belles rencontres. Pour réaliser cette émission, nous étions 11 stagiaires. Laurie, Julia, Mélanie,
Solène,
Cécile,
Julie,
Joy,
Nejma,
Héloïse,
JB et Alex, les deux voix masculines de notre groupe.
On tenait à remercier Pedro et Aglaé, les deux luthiers de sauveterre.
Nicolas Rudel et l'odeur de son pain tout chaud, tout juste sorti du four.
Fred et Véro, des chalets de la Gazonne qui nous ont régalés toute la semaine.
L'association Wakadi, représentée par Guillaume et Jean-Jacques.
Et on leur souhaite une bonne continuation dans leur projet.
Et le pôle territorial de formation de Toulouse pour nous avoir permis de vivre cette belle aventure.
Ciao!
À bientôt!
Salut! Salut.